Europe 1,
édition spéciale municipale. Sébastien Krebs, Wendy Bouchard.
Le rappel des grands résultats de cette soirée avec Virginie Salmen.
Il a poussé des verts d'abord à Marseille. Michel Rubirola, la tête de liste écologiste du printemps marseillais, l'emporterait avec 10 points d'avance sur la candidate LR Martine Vassal. 39,9% des voix contre 29,8%. Large victoire se dessine également à Lyon pour le candidat écologiste Grégory Doucet. Le scrutin est en revanche plus serré pour la métropole. Victoire écologiste revendiquée à Tours pour Emmanuel Denis. À Besançon, Anne Vigneault, candidate également écologiste, a de l'avance. À Poitiers, Léonore Monconduit revendique sa victoire. Et puis à Strasbourg, la candidate Jeanne Barseguian devance largement le candidat LREM selon les dernières estimations. À Bordeaux, le candidat Europe Écologie Les Verts Pierre Urmic devance de peu Nicolas Florian, le candidat LR-LREM. 46,2% des voix contre 43,9% pour Nicolas Florian. À Lille, la maire Martine Aubry serait réélue après un gros suspense. Son entourage annonce sa victoire. À Paris, Anne Hidalgo serait réélue avec 50% des voix, ce sont encore des estimations. Un résultat à Maubeuge, Arnaud Decagny, divers droite, réélu avec 47,82% des voix. À Douai, Frédéric Chéreau, Union de gauche, réélu également. Et puis Morlaix passe à gauche. Agnès Lebrun, la maire LR, serait battue par Jean-Paul Vermeaux, Union de la gauche. Surprise également en Bretagne, à Lorient qui bascule à droite. C'était le fief de Jean-Yves Le Drian, avec la victoire de Fabrice Loher, divers droite. Et puis Jacques Bompard est réélu à Orange avec 56,33% des voix pour le candidat RN, pour la Ligue du Sud, pardon. Les victoires RN, c'est plutôt à Perpignan, Bruay-la-Buissière dans le Pas-de-Calais, Moissac dans le Tarn-et-Garonne, Mazan et Bédarrides dans le Vaucluse.
Merci beaucoup Virginie Salmen.
On poursuit notre Tour de France, nos envoyés spéciaux mobilisés un petit peu partout et du côté de Toulouse, les choses commencent à s'affiner. Pardon, j'ai pris l'accent sans faire exprès. 21h37, bonsoir Benjamin Peter.
Bonsoir. Oui, bah écoutez, c'est une première estimation qui donnerait 51,6% à Jean-Luc Moudenc et 48,4% à Antoine Maurice. Des résultats qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence hein, puisque le dépouillement se poursuit. Seuls 5 bureaux pour l'instant ont publié des résultats vraiment définitifs. Mais si ça se confirme, Toulouse serait donc une des rares villes qui résisterait à cette poussée verte et qui confirmerait donc un candidat soutenu par La République En Marche. Alors là, il faut rappeler qu'Archipel Citoyen, la liste d'Antoine Maurice, c'est pas vraiment une liste totalement verte. Elle regroupe la France Insoumise, des militants associatifs, quelques figures, des gilets jaunes aussi, ce qui avait fait d'ailleurs dire au maire sortant que les gilets jaunes étaient aux portes du Capitole. Il semblerait donc que Jean-Luc Moudenc sauve sa place de justesse, alors que ces dernières semaines, 3 sondages successifs donnaient son adversaire gagnant d'une très courte tête. Mais on attend encore la fin du dépouillement, la publication des résultats définitifs pour confirmer ce résultat.
Voilà, le maire sortant, Jean-Luc Moudenc, en position de se maintenir. Merci Benjamin Peter. Et de Toulouse, allons à Montpellier où on va rejoindre Pierre Herbulot. Est-ce que là-bas aussi les choses se dessinent, Pierre ?
Oui, bonsoir Sébastien. Absolument, l'appréhension et les sourires timides ont laissé la place aux applaudissements et aux franches embrassades ici dans le QG du candidat d'hiver gauche investi par le PS, Michael Delafosse. On le comprend, à la musique derrière moi, il est donné largement en tête par un sondage du quotidien Midi Libre. Selon ses dernières estimations, il obtiendrait 49% des voix, loin devant le maire sortant d'hiver gauche, lui aussi Philippe Sorel. Et le milliardaire sans étiquette Moed Altrad, 18%. Un résultat qui chamboulerait donc le classement du premier tour. C'est donc, selon toute vraisemblance, la fusion avec la liste Europe Écologie Les Verts qui a permis à Michael Delafosse et à sa liste d'hiver gauche de prendre la mairie de Montpellier ce soir. Si bien entendu, les résultats de ce sondage sorti des urnes venaient à être confirmés.
Merci beaucoup Pierre Herbulot depuis Montpellier avec cette liaison un petit peu compliquée dont on s'excuse.
C'est la musique pop
ce
qui fait
soir.
Sauter la ligne.
Un petit peu trop de musique. Sachez qu'à ce stade, vous retrouvez évidemment tous les résultats sur Europe 1. Et vous pouvez même demander vos résultats à votre assistant vocal.
Oui, ça c'est une exclusivité sur Europe 1. Donc vous demandez le résultat de votre ville à votre assistant vocal. À partir de maintenant, cela fonctionne. Je salue et nous rejoignons en plateau Laetitia Krupa, journaliste et spécialiste de communication politique. Bonsoir.
Bonsoir.
Yves Tréhard pour Le Figaro. Bonsoir Yves,
bonsoir,
directeur adjoint du journal, éditorialiste. Michael Darmon, éditorialiste maison, nous a rejoint également
bonsoir.
Pour commenter, analyser en attente d'autres résultats tout ce qui s'est déjà nouée et dénouée depuis 20 heures, maintenant qu'on est en capacité de vous donner tout cela. Avec cette vague écologiste dont nous parlions à l'instant avec Karima Deli, et je reviens quand même sur ce symbole lyonnais, à 46 ans, c'est l'écologiste donc Grégory Doucet, que le grand public ne connaissait pas, qui a ravi cette mairie pour la troisième ville de France. Alors, ça fait quelque chose, quand on est aussi spécialiste de communication politique, en termes de victoire, c'en est une pour ce garçon.
Oui, évidemment, c'en est une, mais c'est, vous l'avez dit, un raz-de-marée, une vague. On ne sait plus comment qualifier ce succès des écologistes, c'est vrai, dans ces élections. Et quand on regarde, finalement, c'était attendu, puisqu'il y avait eu les européennes, donc tous les pronostiqueurs, tous les experts attendaient cette vague. Ce qui est important, c'est bien sûr les grandes villes qui tombent dans les mains aussi de personnalités, vous avez raison, qui sont encore inconnues du grand public. Et c'est ça aussi que joue ce parti qui, je vous rappelle, était sorti exsangue du quinquennat de François Hollande. Mmh. Enfin, au plan national, il était difficile de comprendre l'offre écolo, de savoir qui l'incarnait. Alors, avec les européennes, la figure de Jadot était apparue plus observable, plus immédiate. Mais dans ce scrutin, vont commencer à sortir des nouveaux visages, des nouveaux leaders de cette force qui s'annonce comme peut-être un parti pivot pour la grande formation de gauche qui est en train de naître et qui pourrait apporter un candidat face à Emmanuel Macron et face à Marine Le Pen,
2022.
Qui nous donne encore au second
sortir
tour.
Sortir du match déjà annoncé.
Bien sûr.
Yves Tréhard, particulièrement, arrêtons-nous sur le cas de, si on s'arrête sur Lyon, c'est un fiasco pour La République En Marche. On est dans le fief, dans le berceau chez Gérard Collomb.
Oui, alors on est effectivement dans le fief de la Macronie jusqu'à il y a un an et demi, puisque Gérard Collomb et le président de la République sont fâchés. Rien ne va plus entre les deux hommes, alors que c'est vrai, c'est vraiment celui qui l'a fait. Je peux vous dire que j'ai assisté au début du président de la République quand il était candidat, et l'homme qui le soutenait, qui lui donnait toutes les ficelles, qui essayait de l'implanter localement. Parce que Gérard Collomb, c'est non seulement le maire d'une grande ville, c'était le maire d'une grande ville, mais c'était le maire des réseaux. C'est lui qui a réussi à faire venir Bayrou qui a rallié Bayrou. C'est grâce à son travail. Et il était aussi sédateur et il arrivait à faire de la politique comme on la faisait un peu à l'ancienne, d'ailleurs. Bon. Il est parti du gouvernement. Il s'est fâché avec le président de la République pour deux raisons principales. L'affaire Benalla, qui a vraiment été pour lui tout à fait insupportable. Et puis aussi parce qu'il n'aimait pas la façon de gouverner du président de la République ou de présider. Bon, il a fait une erreur majeure, néanmoins. C'est qu'il est rentré dans son fief où il était déjà en disgrâce. Pour deux raisons. D'abord parce que c'était un maire qui a été élu pour la première fois en 2001. Donc il avait déjà une expérience, même si Lyon, que je connais bien, c'est une ville où on aime les choses installées, les traditions, on estimait qu'il fallait peut-être tourner la page. Donc le milieu économique qu'il avait réussi à draguer, justement, pour Emmanuel Macron au moment de la présidentielle, s'était un peu écarté de lui. Et puis il a fait une erreur majeure. C'est qu'il a quitté le navire. Il a quitté le navire gouvernemental. Et à Lyon, on n'aime pas ça. On n'aime pas les mauvaises manières. Et il a fait une mauvaise manière. Parce qu'il est parti, alors que le ministère de l'Intérieur, c'est quand même pas rien, dans une France compliquée. Donc, il a joué gros. D'autre part, il a eu des anciens alliés ou des anciens hommes lige comme M. Kiemenfeld, qui étaient vraiment ces créatures, et qui lui ont tourné le dos. Et qui lui ont fait mal, même si on ne les retrouve pas aujourd'hui dans le scrutin, parce qu'ils sont loin derrière, eh bien, ils lui ont fait mal. Et l'image de Gérard Collomb, ça fait de la peine d'ailleurs, parce que c'est un grand élu, Gérard Collomb, faut le dire. Il a été un grand élu, c'est un homme qui a fait beaucoup pour sa ville. Eh bien... il sort par la petite porte.
C'est une vraie page qui se tourne, en tout cas.
Alors après, il y a l'histoire des écologistes, évidemment, qui arrivent à Lyon, comme ils arrivent dans beaucoup de grandes villes. J'aurais une expression qui est l'expression du Premier ministre. C'est-à-dire que la poutre continue à bouger. Le paysage politique est dans un état de décomposition, recomposition terrible. Mmh. Je ne sais pas ce qu'annonce cette vague écologiste. On ne peut rien dire. Est-ce que c'est quelque chose qui est pérenne? Je pense que effectivement, ça
est-ce que
sera,
c'est l'électorat qui a surmobilisé
ça sera
pour ces scrutins?
Le pilier central de la gauche, c'est ça qui est intéressant. C'est que, mais ça, ils n'auront pas de figure, parce que maintenant, je pense que M. Jadot a du souci à se faire. Mais
attendez, ils ont encore deux ans, donc non. Ils peuvent trouver
mais
la
figure.
Il y a
figure. Une figure de la gauche qui va s'imposer. Là. Elle est là, d'ailleurs, elle est à Paris. C'est elle qui va devenir le visage principal de la gauche française. Voilà. Bah oui.
Donc le match à Hidalgo, Yannick Jadot.
Et qui sait travailler et parler avec les écologistes.
Michel Darmon.
Oui, alors on verra s'il y a un match.
Avec l'alliance avec David Belliard, qui lui a été favorable, elle a été élue à plus
vrai.
De 50%.
Mais pour prolonger ce que vient de dire Yves Tréhard, il est vrai que maintenant, beaucoup de personnes, parce qu'il faut effectivement préparer 2022, c'est-à-dire en temps politique, il reste 10 minutes, parce que c'est quand même très très long, les processus pour faire émerger une plateforme, un candidat, convaincre, organiser une campagne, trouver donc une incarnation, comme on dit. Beaucoup vont certainement quand même aller voir du côté d'Anne Hidalgo si elle a envie. Alors elle dit Urbi et Torbi avant l'élection, mais
elle
évidemment ça
ne
l'intéressait
oui.
pas. Oui, enfin les irrévocables, les noms, tout ça on connaît par cœur. Après, au service de la France et par devoir, on connaît aussi. Donc tout ça peut évidemment bouger. Mais en termes de figure, effectivement, il y a plusieurs personnes qui y pensent, au premier chef peut-être à Hidalgo sans le dire, de manière beaucoup plus subliminale, mais quand même parce qu'il regarde ça sans jamais arrêter de voir si les circonstances peuvent être favorables. Il y a François Hollande qui attend en embuscade et qui lui
croit,
travaille
hein.
au fait
il y croit, mais c'est d'abord son
métier
d'y croire. Son retour.
Non, mais c'est son métier d'y croire. Heureusement
bien.
Qu'il y croit. Déjà, ça commence par
c'est
ça. On a vu d'anciens présidents qui y ont cru jusqu'au bout. Donc, de ce point de vue-là, il y a cette perspective-là, parce que maintenant que les écologistes ont fait cette poussée électorale, qu'ils ont franchi ce scrutin des européennes, qui est déjà un exploit, maintenant il faut aussi que les vieux démons soient dépassés, c'est-à-dire jusqu'à présent l'incapacité de la gauche à pouvoir se réunir lorsqu'il faut être efficace sur le plan électoral au niveau de l'élection présidentielle. Ça c'est la première des choses. Moi ce qui me frappe aussi ce soir, hormis évidemment l'abstention qu'on a beaucoup souligné, c'est que l'autre vainqueur du scrutin, c'est la cohérence. Les alliances contre nature ont été rejetées. Et de ce point de vue-là, il y a une cohérence politique qui est en train, et idéologique qui est en train de
Les alliances
de
entre la droite et LREM, vous.
Par exemple. Et puis, on voit bien également que l'enjeu, le défi du macronisme, qui était de devenir un macronisme municipal, a échoué. C'est-à-dire que la pyramide inversée que représente Emmanuel Macron, étant très présent au sommet de la société, est très peu présent dans les territoires et les collectivités, reste un gros problème pour Emmanuel Macron, alors qu'il a un enjeu vis-à-vis des territoires tel qu'il nous l'explique et tel qu'il va encore le montrer dans les prochains
cette
jours.
Cette poussée écologiste qui concerne Lyon, Tours, Besançon, Poitiers, Strasbourg, c'est en train de se dessiner.
Marseille
avec une union de la gauche autour d'une candidate écologiste. Bordeaux, c'est très très serré. On va y retourner, tiens, à Bordeaux. On va aller voir dans un instant où le dépouillage en est. D'abord, un rappel justement de tous les résultats de la soirée à 21h47 avec Virginie Salmen.
Et à l'instant, l'écologiste Grégory Doucet revendique la victoire à Lyon. Le candidat Grégory Doucet, voilà, à la tête de la ville de Lyon. En revanche, le scrutin semble beaucoup plus serré pour la métropole. À Marseille, Michel Rubirola l'emporterait avec 10 points d'avance sur sa rivale LR Martine Vassal. Michel Rubirola, tête de liste écologiste du printemps marseillais, 39,9% des voix selon les estimations, contre 29,8% pour la candidate LR. Victoire écologiste aussi à Tours d'Emmanuel Denis. À Besançon, large avance d'Anne Vigneault. À Poitiers, Léonore Moncon conduit revendique la victoire. À Strasbourg, la candidate Jeanne Barseillon, écologiste également, devance largement le candidat LREM. Et puis à Bordeaux, le candidat Europe Écologie Les Verts, Pierre Urmic, devance de peu Nicolas Florian, le candidat LR-LREM, 46,2% des voix pour l'écologiste contre 43,9% des voix. Toulouse semble résister à la vague verte. Le maire LR Jean-Luc Moudenc sauve son siège selon les dernières estimations avec 51,6% des voix contre le candidat Europe Écologie Les Verts Union de la Gauche, Antoine Maurice, 48,4% des Verts. En revanche, alors j'ai déjà parlé de toutes les autres villes qui succombent à la vague verte.
Vous avez 650 feuilles
voilà,
devant
c'est
vous.
C'est ça exactement, j'essaie de m'y retrouver. À l'instant, Christian Estrosi revendique sa victoire à Nice. Il y a deux surprises ce soir. En Bretagne, Morlaix passe à gauche. La maire LR Agnès Lebrun battue par le candidat Union de la Gauche Jean-Paul Vermeau. Et puis à Lorient, le fief historique de Jean-Yves Le Drian. C'est Fabrice Loher, le candidat d'hiver droite, qui est élu. À Lille, la maire Martine Aubry serait réélue après un gros suspense. Son entourage annonce ce soir sa victoire. À Paris, Anne Hidalgo serait réélue avec un peu moins de 50% des voix. Les dernières estimations qui nous parviennent font état de 48,7% des suffrages pour Anne Hidalgo, 33,8% pour Rachida Dati, la candidate Les Républicains, et puis 13,3% pour Agnès Buzyn.
Merci Virginie Salmen. À Lille, où Martine Aubry prend la parole soulagée avec son petit haut bleu roi, Lille.
Réélu de justesse.
Où Martine Aubry est finalement rassurée et acclamée. Et Juppé qui pleure, Alain Juppé, qui a dit ceci en quittant la mairie de Bordeaux. Et nous irons dans un instant. J'ai beaucoup de tristesse ce soir. Manifestement, Bordeaux aurait un nouveau maire. On va rejoindre dans un instant Stéphane Place. Mais vous vouliez rebondir, cher Édouard Le Serre, sur cette recomposition de l'offre, sur cette poussée écologique.
Oui, parce qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé, mais qui est très, très visible à travers ce qui est en train de se passer à Marseille, à Bordeaux ou à Lyon, c'est que l'héritage en politique, ça ne marche plus. La transmission, ça ne marche plus. On est aujourd'hui, lorsque vous essayez de vous mettre dans les pas d'un grand homme ou d'une grande femme, ça devient extrêmement compliqué et vous vous faites bousculer. En revanche, on peut aussi voir, malgré tout, même si on l'a un peu oublié, une petite prime au sortant. Cette idée de la prime au sortant dont on parlait après le premier tour, elle est vraie pour Martine Aubry, elle est vraie pour Jean-Luc Moudenc, elle est sûrement vraie pour Anne Hidalgo. Donc on voit bien, cette prime au sortant, malgré tout, elle joue dans certains endroits, mais cette capacité à pouvoir transmettre un héritage politique de grands hommes ou de grandes femmes politiques qui ont été là et qui ont décidé de se retirer, je comprends la tristesse d'Alain Juppé, mais en tout cas, c'est une autre génération qui arrive et qui a du mal à reprendre les habits de ces grandes personnalités politiques.
Alors justement, allons-y à Bordeaux, Stéphane Place. Ça y est, les choses se dessinent. La tristesse d'Alain Juppé signifie que la ville tombe, elle aussi, dans l'escarcelle des écologistes.
Alors les écologistes sont très prudents pour l'instant. On rappelle qu'il s'agit de sondages, mais on sent bien devant le QG de Pierre Urmic, où je me trouve et qui est à environ 250 mètres de la mairie qu'a quitté Alain Juppé en exprimant sa tristesse ce soir, on sent bien qu'il y a désormais des accents de victoire parmi les supporters de Pierre Urmic. Devant moi, ils viennent de ressortir les t-shirts verts avec le nom de la liste Bordeaux respire, le monde change, changeons Bordeaux. Et vous entendez sans doute les applaudissements devant le QG de Pierre Urmic.
C'est clair.
Effectivement, pour les électeurs verts, la victoire ne fait plus l'ombre d'un doute. Vous entendez la joie et l'enthousiasme. C'est la première fois en 73 ans qu'il y a un deuxième tour dans cette ville de Bordeaux. Et il semblerait ce soir que ce deuxième tour profite donc à Pierre Urmic, qui pourrait bien devenir le nouveau maire de la ville. En tout cas, quand on constate la joie, les chants et l'enthousiasme...
Je crois qu'on vous entraîne dans la danse, Stéphane Place, n'en dites pas plus.
Supporters de Pierre Urmic, encore une fois, la victoire ne fait plus l'ombre d'un doute, alors que le dépouillement aux dernières nouvelles n'est pas encore terminé, mais il semble bien que la bascule se dessine, et elle est évidemment avec une portée historique. Il n'y a pas eu de deuxième tour, mais il n'y a pas eu non plus d'autres maires que des maires de droite depuis la Libération dans la capitale de la Nouvelle-Aquitaine. Et là, vous entendez, en même temps que moi sur Europe 1, les applaudissements et la joie des supporters de Pierre Urmic, un avocat âgé de 65 ans, qui est un opposant, un fervent opposant d'Alain Juppé pendant toute la période durant laquelle ce dernier a été le maire de la ville et qui, ce soir, pourrait bien être le nouveau maire de Bordeaux. On attend une confirmation encore et on attend aussi l'apparition de Pierre Urmic, car pour l'instant, son QG est fermé à la presse.
Merci Stéphane Place.
Ça ne fait plus beaucoup de doutes.
On vit les choses en direct.
Il a du souffle Stéphane, parce qu'il va y tenir quand même.
Il n'y a plus de doute.
Oui, quel symbole encore Bordeaux. Et je vous fais réagir, Laetitia Coupaille.
C'est impressionnant d'entendre ce qu'on entend dans une ville comme Bordeaux, mais également dans les résultats que l'on est en train de collecter. Je pense qu'il faut quand même aussi prendre le temps de s'arrêter et de dire qu'on vit un tournant politique ce soir, quand même. Ces élections municipales qui sont en train de dessiner une nouvelle carte politique à 2 ans de l'élection présidentielle, forcément, commencent à indiquer des choses. Je vous rappelle qu'au début de l'année, lorsqu'on avait posé la question au président de la République, on avait parlé des municipales, et il nous avait dit, à un groupe de journalistes, mais ces élections ne sont que locales, elles ne représentent rien d'autre, et il n'y aura pas de décision nationale au lendemain des élections municipales. Force est de constater que, bien évidemment, ça n'est pas le cas.
C'est manifestement tout
le
contraire.
Dès demain, d'ailleurs, il y a une décision importante à la Convention citoyenne qui va être dans le prolongement de ce qu'on est en train de vivre, mais il y a en ce moment une demande du pays, en tout cas dans des grandes villes, dans des lieux importants et symboliques de collectivités et d'organisation du pays, il y a une demande d'autres gouvernances politiques et d'autres enjeux politiques. Le mot fétiche en ce moment du président de la République, c'est la maïeutique, c'est-à-dire faire sortir ce que les gens ont à dire, eh bien, ce soir, il faut quand même constater que c'est ce qui se passe. Cette fameuse vitrification de la vie politique qu'on avait évoquée depuis 2017, imposée par la victoire d'Emmanuel Macron, est en train quand même de se craqueler. Il y a un retour des clivages. Il y a des partis politiques anciennement de gouvernement se disent un projet est possible, une incarnation peut être trouvée et peut-être peut-on changer la donne.
Il va falloir mobiliser simplement.
Laetitia qui est tout à l'heure, c'est-à-dire le match décidé, maintes fois répété, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'est l'enjeu maintenant de ces deux prochaines années.
Laetitia Krupa, on le voit dans plusieurs villes, le clivage s'est joué, non pas sur la gauche et sur la droite, le clivage s'est joué sur l'écologie. C'est central dans un certain nombre de ces scrutins ce soir.
Et donc, oui, bien sûr, et donc Mickaël a raison, l'écologie va s'imposer dans toutes les discussions futures, parce que ce que tout le monde scrute, c'est bien sûr la présidentielle dans deux ans. D'ailleurs, dès ce soir, on a entendu Olivier Faure parler d'une
élan.
Base, d'un bloc social et écologique qui est en train de naître. Donc, c'est-à-dire que tout le monde essaye de draguer les écolos et de ramener cette force pour sortir vainqueur. Le grand ratage d'Emmanuel Macron, c'est quand même qu'il ne s'est jamais vraiment positionné, sauf bien sûr avec un verbe haut en couleur qui a été vraiment repris partout, qui a eu beaucoup d'écho, mais finalement qui ne s'est jamais positionné sur cette question écologiste. On l'a entendu, mais il n'a rien fait. Et la démission fracassante de Nicolas Hulot était un signe que dans le quinquennat Macron, il y avait un pilier qui manquait. Bien sûr,
on va aller sur le parvis de l'hôtel de ville, pardon de vous couper, parce qu'Anne Hidalgo est en train de, semble-t-il, de revendiquer sa victoire sous les applaudissements. Voilà, on l'écoute en direct.
Chers Parisiens, aujourd'hui, vous m'avez accordé votre confiance pour être à nouveau maire de Paris. Exceptionnelles qui entourent ce deuxième tour de l'élection municipale rendent ce moment très particulier. Je veux remercier l'ensemble des citoyennes et des citoyens qui se sont déplacés aujourd'hui malgré la crise du coronavirus, ainsi que toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour que cette élection puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Par cet acte, vous avez montré notre attachement, votre attachement à notre démocratie. Car au-delà des circonstances, le débat démocratique a eu lieu et les électeurs ont tranché. Vous avez choisi l'espoir, vous avez choisi le rassemblement, vous avez choisi un Paris qui respire, un Paris plus agréable à vivre, une ville plus solidaire qui ne laisse personne sur le bord du chemin.
Voilà, Anne Hidalgo qui est en train de revendiquer donc cette victoire à Paris. Anne Hidalgo réélue ce soir avec autour de 50%. C'est ce que lui donnent les estimations, et autour de 35% pour Rachida Dati, la candidate de la droite.
Elle a bénéficié de cette alliance aussi avec David Béliard, écologique. On peut parler aussi d'Agnès Buzyn, 16% des voix. Mais je ne sais pas sur quel pied vous voulez danser ce soir, Yves Tréhard.
Non, mais évidemment. Mais vous savez, Anne Hidalgo a pris l'habitude de travailler avec les écologistes. Elle a toujours travaillé avec les écologistes, comme son prédécesseur Bertrand Delanoë. Et d'ailleurs, au début, c'était très compliqué. Parce qu'ils ont exercé une pression sur les deux socialistes de Delanoë et Hidalgo, qui était très forte. Et si aujourd'hui Anne Hidalgo se revendique de cette écologie, c'est parce qu'elle est obligée de répondre à ça. Moi, je tempérerais, je préférerais, je vais peut-être être un peu l'empêcheur de tourner un rond. Attention, vous avez vu le taux d'abstention. C'est le premier parti de France, ça. Le taux d'abstention est énorme, et surtout d'ailleurs dans les 5000 villes qui viennent de voter.
Pas moins 15 points de participation à Paris par rapport premier tour.
Premier tour.
Et donc,
20% d'abstention au global.
C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que ça ne dit rien de ce que sera le paysage politique ou la course à la campagne électorale de la présidentielle, notamment. On ne peut pas transposer.
Ça ne dit rien de bien, en tout cas.
Ça ne dit rien de bien, parce que tous ceux qui ne votent pas, ils peuvent s'exprimer autrement. Et on l'a vu ces deux dernières années en France, où justement, c'est pour ça qu'il faut vraiment... Il y a de quoi être inquiet. Vraiment. Parce qu'on a vu que la France, depuis 2 ans, est en manifestation permanente et de façon très violente. Et ça, c'est un mode d'expression. Eh bien, on préférait ne pas l'avoir, et on préférait que les gens expriment leur mécontentement ou leur colère dans les urnes. Eh bien non, c'est autrement que ça s'exprime. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, évidemment, l'écologie est au cœur aujourd'hui de la politique. Je ne crois pas que ça soit le succès d'Europe Écologie Les Verts. Je pense que c'est plutôt l'énorme progression dans les esprits de la cause écologique. De la cause écologique. Et là, on le voit d'ailleurs. Les écologistes, il y en a certains qui gagnent seuls, mais ils gagnent souvent en association, avec des partenaires de gauche d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que Jadot, à l'élection présidentielle, à l'élection européenne, fait un score qui n'est pas extraordinaire. C'est un début. Il fait 12%. Cohn-Bendit avait fait mieux quelques années avant. En revanche, là, il faut le prendre en considération un peu plus.
Premier parti chez les jeunes.
Parce que, effectivement, c'est un vote qui, aujourd'hui, fait qu'il y a une razzia, on peut carrément dire ça, une razzia des grandes villes en France.
Vous êtes sur Europe 1, il est précisément 22h. On va vous refaire évidemment un point complet sur tous ces résultats. Anne Hidalgo qui à l'instant donc revendique la victoire à Paris. Martine Aubry réélue de justesse à Lille. Et cette vague verte qui se dessine très clairement ce soir. A tout de suite. Il est 22h sur Europe 1.
Europe 1, municipal 2020. Votre soirée électorale présentée par Sébastien Krebs et Wendy Bouchard.
Tous les résultats à suivre en direct sur Europe1.fr avec vos assistants vocaux à la maison. Vous prononcez le nom de votre commune et on vous donne le résultat en direct. C'est un dispositif exclusif que nous développons. Et on a aussi la voix de Virginie Salven pour vous informer. Ce petit tour de France, on vous écoute Virginie.
À Bordeaux, la victoire des Verts semble actée. Alain Juppé a fait part de sa tristesse en quittant la mairie. C'est le candidat écologiste Pierre Urmic et qui l'emporterait avec 46% des voix. Un avocat de 65 ans face au candidat LR-LREM Nicolas Florent. Et qui rafle 44% des voix. Toulouse résiste à la vague verte. En revanche, le maire LR Jean-Luc Moudenc sauve son siège avec 51,6% des voix face au candidat Europe Écologie Les Verts Union de la Gauche Antoine Maurice, 48,4% des voix. Jean-Luc Moudenc vient d'annoncer sa victoire. Christian Estrosi lui revendique la victoire à Nice. Il y a deux surprises en Bretagne. Morlaix qui passe à gauche. La maire LR Agnès Lebrun battue par le candidat Union de la Gauche Jean-Paul Vermeau. Et puis à Lorient, Fabrice Loher divers droit fait basculer la ville historiquement fief de Jean-Yves Le Drian à droite. Suite de la vague verte à Marseille, Michel Rubirola, la tête de liste écologiste du printemps marseillais, l'emporterait avec 10 points d'avance sur la candidate LR Martine Vassal. Une large victoire à Lyon pour le candidat écologiste Grégory Doucet qui remporte la mairie. Victoire écologiste également à Tours avec Emmanuel Denis. À Besançon, large avance d'Anne Vigo. À Poitiers, Léonore Monconduit a revendiqué sa victoire. Et puis à Strasbourg, à l'instant, l'écologiste Jeanne Barseguian se dit fière de sa victoire à Strasbourg. Bordeaux, je viens de vous en parler à l'instant. À Montpellier, le socialiste Michael Delafosse l'emporte face au maire sortant avec 47% des voix. C'est encore une estimation. À Lille, la maire Martine Aubry serait réélue après un gros suspense. Son entourage a annoncé sa victoire. Et puis à Paris, Anne Hidalgo vient d'annoncer sa réélection à l'instant avec environ 50% des voix face à Rachida Dati, 35%, et Agnès Buzyn, environ 16%. Et puis je vous rappelle la victoire d'Édouard Philippe, le Premier ministre, élu au Havre avec 58,83% des voix. À l'extrême droite, Jacques Bompard, réélu à Orange avec 56,33% des voix, le parti d'extrême droite Ligue du Sud. Et puis victoire du Rassemblement National à Perpignan avec Louis Alliot, à Bruel-la-Buissière dans le Pas-de-Calais, à Moissac dans le Tarn-et-Garonne, Mazan et Bédaride dans le Vaucluse. Voilà pour les victoires, les villes remportées par le Rassemblement National.
Merci beaucoup Virginie Salmen et ce symbole pour le Rassemblement National, cette victoire à Perpignan, la première ville de plus de 100 000 habitants conquise par le Rassemblement National et Louis Alliot tout à l'heure qui revendiquait la victoire.
C'est l'exemple qu'il n'y a plus de plafond de verre. Je l'avais démontré déjà aux élections législatives il y a 3 ans. Aujourd'hui, ces municipales sont encore plus emblématiques et j'espère que ça servira de leçon à tout le monde, à nos adversaires de nous avoir diffamés comme ils l'ont fait, mais aussi à toutes celles et ceux qui croient aux chances de la victoire des patriotes. C'est possible pour peu que l'on parle aux citoyens, qu'on fasse du pragmatisme et que l'on s'intéresse à eux. C'est ça le plus important.
Vous avez dit que c'était un symbole. Pourquoi c'est un symbole ?
Mais parce que le mur de verre est tombé et qu'on a gagné seul contre tous. Mais je crois que c'est un beau symbole que Perpignan aujourd'hui soit, j'allais dire, la capitale de la résistance française.
Le nouveau maire de Perpignan, donc Louis Alliot, pour le Rassemblement
capitale de la résistance
nationale, capitale de la résistance. Il était au micro de Henri de Laguérie, notre envoyé spécial.
On avait le plafond de verre, on a le mur de verre maintenant, Michael Darmon, qui a été percé.
Oui, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est ce que ne dit pas Louis Alliot. Il ne prononce pas le mot
oui,
RN.
Bien sûr.
Et c'est ça qui est bien intéressant.
Il ne l'avait pas non plus sur ses affiches.
C'est dans son silence qu'on a l'information ce soir. Et quand il dit « c'est la victoire des patriotes », il ne prononce pas le nom du parti parce qu'il a fait toute la campagne sans, évidemment, l'affiche RN. Et ce qui montre bien, quelques jours après, on se souvient de la sortie de Robert Ménard, qui avait dit que Marine Le Pen, avec l'étiquette RN, ne pouvait pas gagner. Ce qui montre bien que le débat en ce moment qu'il y a dans cette partie de la famille politique, cette famille politique, c'est de dire, tout simplement, si on reste sur l'étiquette RN proprement dit, alors on aura un problème de rassemblement. Il y a un enjeu. Même d'ailleurs, Marine Le Pen, selon certains proches, y pense déjà depuis quelques temps, à ce qu'éventuellement, il y ait nécessité de s'éloigner pour elle du parti, de faire une plateforme plus incarnée, plus rassembleuse, de manière à rassembler ce que vient de dire, selon sa formule, Louis Alliot, les patriotes, cette droite hors les murs, comme on l'appelle, qui serait capable de faire un rassemblement des électeurs au-delà des appareils politiques. C'est l'enjeu pour cette partie de l'échiquier politique à partir de maintenant.
Laetitia Coppa.
Et peut-être même, Michael, un risque pour Marine Le Pen d'être mise hors jeu. Qui sait qui sera le candidat du peuple ? Parce que c'est comme ça que cette personne va se présenter au scrutin national pour 2022. Qui peut dire aujourd'hui que ce sera Marine Le Pen ? Cet espace-là est laissé libre. Il y a beaucoup d'initiatives en ce moment qui se mettent en place, notamment le Front populaire de Michel Onfray, qui peut, dans cet espace, proposer une alternative économique. Et ça, Marine Le Pen le sait. Elle sait qu'elle peut se faire dépasser. Elle sait qu'elle peut vraiment être doublée dans cette proposition politique-là. Donc, pour elle, c'est un enjeu qui est capital.
Mais il n'y a pas que le Rassemblement national qui est, je dirais, mis à mal. Il ne va pas bien, d'ailleurs, le Rassemblement national, en règle générale, y compris sur un plan financier. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais il y a un autre parti qui a tout à redouter, justement, de cet espace, on va appeler ça patriotique. C'est les Républicains,
absolument,
précisément.
Absolument.
Et les Républicains pourraient faire les frais de l'émergence, justement, et le grand vainqueur là-dedans, ça serait Robert Ménard, d'ailleurs. C'est lui, la jurisprudence. Ménard s'est imposé à Perpignan avec Louis Alliot, qui a tout compris. Et d'ailleurs, Alliot a fait sa campagne avec tous les conseils derrière lui de Robert Ménard, qui a dit qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, avec un parler vrai, alors qui peut sonner faux aux oreilles de plein, de gens, mais une espèce de parler vrai, de bon sens près de chez vous. On dit la vérité, on ne ment pas, on ne fait pas de politique, on s'occupe de l'intérêt général. Tout ça, ça porte évidemment, surtout dans une période de défiance comme c'est le cas aujourd'hui, ça porte. Et je pense qu'effectivement, il faut regarder cette victoire de très près. Il n'a jamais revendiqué son appartenance au Rassemblement national. Il ne la revendique toujours pas. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner là, qui est très intéressant et qui peut faire beaucoup de mal aux Républicains, qui, contrairement à ce que disait M. Jacob d'ailleurs en début de soirée, on ne peut pas dire que les Républicains, qui sont bien implantés sur le plan local, ça c'est évident, mais on ne peut pas dire que ce soir...
D'autant plus
Marseille est vraiment une très grosse défaite.
C'est un symbole, et ça donnera aussi un enjeu concernant la décision de rassembler, de trouver un projet, de désigner un candidat ou une candidate. On verra comment ils vont-ils faire à l'automne pour pouvoir également être présent sur la ligne de départ en 2022. Ce soir, LR, effectivement, a un problème.
On débrief jusqu'à 22h30 sur Europe 1 les résultats de cette soirée avec nos éditorialistes, Michael Darmon, Yves Tréhard et Laetitia Krupa. On va aller faire un tour à Lille parce que Martine Aubry, ça y est, a revendiqué sa victoire. Sur le fil, Lionel Gougelot et Martine Aubry, donc réélus.
Effectivement, c'est moins qu'on puisse dire sur le fil, parce que si Martine Aubry l'emporte avec 40% des suffrages, elle ne l'emporte que de 227 voix d'avance sur son concurrent, le candidat écologiste Stéphane Bally, qui, rappelons-le, faisait partie de la majorité de Martine Aubry dans le précédent mandat. Martine Aubry que l'on a vu véritablement soulagé. Hein. Je vous le rappelle, sa victoire avait été annoncée quelques minutes auparavant par son entourage, par ses partisans. On a vu des scènes de joie ici dans le grand hall de la mairie de Lille, des militants, des militantes en pleurs à l'annonce donc des premières tendances, ou en tout cas de la première confirmation de la victoire de Martine Aubry jusqu'à la proclamation officielle des résultats. Martine Aubry qui a pris la parole d'abord pour regretter la faible participation hein, que l'on a observée sur ce second tour de scrutin, aussi bien à Lille que dans l'ensemble du pays. Et puis Martine Aubry qui a eu des mots conciliants, je dirais, à l'égard de ses adversaires écologistes. Elle a pris en compte également la poussée verte que l'on observe ce soir à travers tout le pays. Et elle a annoncé dans son premier discours que l'une de ses premières préoccupations serait effectivement de travailler à une véritable transition écologique. Je vous propose de l'écouter.
Je voudrais dire que j'ai entendu, j'allais dire je le savais, mais je l'ai entendu encore plus fort, le message partout en France sur la nécessité de cette transition écologique. C'est ma conviction. Croyez bien que nous tous ici, et je le dis particulièrement à Stéphane Bally et à ses colistiers, nous n'oublierons pas ce qu'on dit partout en France et ici, à Lille, les 39% des Lillois qui ont voté pour eux, même si je pense que les 40% qui ont voté pour nous sont aussi favorables à la transition écologique. Voilà, je crois qu'il faut aussi le dire aujourd'hui.
Voilà, vous l'entendez, hein, des paroles apaisantes en direction de son adversaire, alors que les dernières semaines, les derniers jours de campagne avaient été particulièrement tendus ici entre le clan Aubry et le clan d'Europe Écologie Les Verts. Et c'était vraiment très, très tendu. Là, finalement, Martine Aubry, grâce à cette victoire sur le fil, eh bien, elle va pouvoir relancer ou en tout cas accentuer sa politique écologique en faveur de l'environnement, sans oublier, elle a tenu également à le rappeler, eh bien, toutes les mesures sociales qu'elle engage ici depuis plusieurs années maintenant au niveau de la mairie de Lille.
Lionel Gougelot et le « Je vous ai compris » de Martine Aubry en direction ça, oui. Voilà, des
elle
électeurs,
le message.
Des écologistes ce soir. Avec Édouard Le Sergeret, qu'on revienne en quelques mots sur la situation parisienne. Le triomphe, disent certains observateurs, d'Anne Hidalgo, réélue avec 50% des voix. Vous vouliez d'abord revenir sur cette figure de la gauche qui vraiment s'installe dans le paysage politique, Édouard Le Sergeret.
Oui, à la fois sur cet élément-là, sur le fait qu'elle a construit, comme vous le disiez tout à l'heure, sa victoire aussi sur une alliance et une capacité à travailler avec les écologistes depuis longtemps. Il se passe aussi, rebondir sur ce que disait Yves Tréhard tout à l'heure à propos du score des écologistes, de ce que cela veut dire, il y a quand même quelque chose qu'il faudra regarder sur les résultats d'ensemble des deux tours, parce qu'encore une fois, on vote ce soir pour seulement
4800
voilà, communes. Exactement, un petit nombre de communes. Il y a quelques éléments symboliques extrêmement forts, on vient d'en parler, mais on va regarder aussi la manière dont tout ça s'articule, ce rapport de force politique s'articule dans à tous les niveaux de la France, dans toutes les strates. Et il n'est pas impossible qu'on constate demain, en regardant les chiffres dans le détail, qu'on ait effectivement une France urbaine à tendance verte prononcée et une France rurale à tendance bleue ou rose, différente, assez différente. De ce point de vue-là, ce sera intéressant. Il faut, encore une fois,
qui
c'est
toujours,
normal.
Qui se tournerait toujours vers les partis traditionnels, en somme.
Potentiellement. En tout cas, plus petites communes, plus de tradition, plus de capacité à aider le sortant, mais surtout sur peut-être des préoccupations un peu différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la préoccupation écolo, elle est présente partout, dans toutes les catégories, dans toutes les strates de la population, dans toutes les tranches d'âge. C'est évident, elle a progressé de manière phénoménale. Toutefois, demain, d'un point de vue électoral, il faudra regarder effectivement comment cela s'agrège et s'il n'y a pas ce soir quelque chose entre une France urbaine écolo, je simplifie, et une France rurale un peu moins.
Merci beaucoup Édouard Le Sergeret, l'Institut BVA, notre partenaire tout au long de cette campagne avec tous ces sondages que nous avons révélés tout au long de ces dernières semaines. On entendait Martine Aubry qui a entendu le message écolo. Il y en a un autre qui visiblement sera bien obligé d'entendre le message. C'est Emmanuel Macron qui dit ce soir qu'il va apporter des réponses fortes à la Convention pour le climat. C'est demain, il reçoit ses citoyens.
Il l'avait déjà dit. Oui, il l'avait déjà dit. Quand il a annoncé, on a eu tout son agenda. Il avait prévu, je pense, certaines victoires d'écologie. Non, mais de l'écologie, peut-être pas cette ampleur-là. Mais bon, avec le taux d'abstention, etc., vous avez raison, il faut tout relativiser. Mais il l'avait prévu. On sait qu'il reçoit les 150 représentants de cette convention. Et il a déjà dit qu'il aurait des annonces fortes à faire aux Français.
Donc, finalement, il s'est toujours positionné sur l'écologie. Qu'est-ce qu'il doit faire demain, dans les semaines, dans les
Il doit écouter ce que vient.
Pour prendre en compte ces résultats.
Il doit écouter ce que vient de dire Édouard Le Sergeret, qui me paraît bougrement important. Parce que s'il donne un coup de barre à fond sur l'écologie, Ce que dit Edouard, c'est que vous avez une France qui n'est pas coupée en deux, mais vous avez deux Frances qui ne vivent pas de la même façon. Vous voyez, quand vous habitez, et les Gilets jaunes l'ont montré, d'une certaine façon, au début au moins, quand vous habitez loin d'un centre-ville, quand vous n'avez pas d'autres moyens de transport que votre voiture, quand vous êtes agriculteur et que vous êtes obligé de recourir au moins pour un temps aux pesticides encore, quand vous êtes... Je peux multiplier comme ça les arguments. Eh ben, vous ne vivez pas la même chose que quand vous êtes dans le centre d'un grande ville et que vous avez votre vélo et que vous travaillez à 5 minutes. Quoi. Et que vous avez un salaire qui tombe tous les mois. Ce n'est pas pareil. Et c'est pour ça que c'est toute la difficulté qu'a ce président de la République dans une France qui est compliquée. C'est justement de savoir rassembler et de ne pas donner des coups de barre. Il faut qu'il trouve un juste équilibre. Alors, pour répondre précisément à votre question... Il va être obligé de faire quelque chose avec cette convention citoyenne, d'abord parce que il a été élu sur le ton de la promesse. Ce que je dis, je le ferai. Donc il a dit qu'il prendrait des décisions ou des mesures qui ont été suggérées par ces, plus que suggérées, votées par ces gens, par ces citoyens. Maintenant, il faut qu'il fasse quelque chose. Alors, est-ce qu'il va aller jusqu'à une réforme constitutionnelle? Est-ce qu'il va nous sortir l'écocide? Est-ce qu'il va nous sortir l'interdiction de voler à 4 heures, à moins de 4 heures
des liaisons aériennes.
Enfin, tout est possible, on verra. Mais simplement, il ne peut pas se permettre, je pense, d'oublier tous ceux qui ont voté au premier tour et qui ont déjà élu leur maire, et qui sont souvent dans des zones rurales, et qui ne vivent pas du tout la même chose que ceux qui sont... en gros dans les centres urbains.
Michaël Darmon, très vite.
Oui, il ne doit pas surtout oublier que son quinquennat, on le voit encore ce soir, est marqué par des bascules, des convulsions, des crises, hein, depuis les gilets jaunes, les retraites, le confinement, la pandémie, maintenant un moment électoral aussi inédit. Ce quinquennat est un quinquennat de convulsions. Lorsque vous dites qu'effectivement, il avait en tête pour la convention citoyenne, le résultat des municipales, il a surtout en tête les gilets jaunes, parce que ça vient, c'est son invention, conseillé par le réalisateur Cyril Dion qui lui a vendu l'idée, mais enfin c'est lui qui l'a porté ensuite en disant je ferai, j'entendrai, je mettrai un dispositif inédit de démocratie semi-directe dans le pays pour pouvoir restituer la parole après les gilets jaunes et toutes les revendications. Il y a la crainte de l'exécutif extrêmement puissante, une deuxième vague de gilets jaunes à la rentrée. Parce que l'équation d'Edouard Philippe aujourd'hui, de Emmanuel Macron, elle est extrêmement délicate. Il devait transformer le pays. Aujourd'hui, il doit surtout le préserver dans un climat de crise sociale puissante et économique qui arrive. Alors qu'il a également dit, je vais me réinventer, mais sans me renier. Comment va-t-il le faire? Avec qui? Avec quelle équipe?
Et le fait que Europe Écologie Les Verts a dit qu'il n'enverrait personne au gouvernement.
Bien sûr, le fait qu'Edouard Philippe demain soit présent aux côtés du président de la République pour recevoir la Convention citoyenne, alors qu'il a été plutôt récalcitrant vis-à-vis du processus, est peut-être un signal. On entend les négociations qui sont en train de passer en sous-main avec différentes personnalités, notamment Pascal Canfin, pour rejoindre un gouvernement incarné avec, justement, c'était de Nicolas Hulot qui délivrerait. C'est un petit peu le rêve.
Mais ça serait un peu grosse ficelle
donc,
quand même.
Il y a effectivement une équation très délicate pour la part d'un président de la République qui doit tirer des leçons d'un scrutin qu'il pensait que local, mais qui est bien évidemment national.
Et on comprend qu'il va se passer beaucoup de choses. Il va se passer beaucoup de choses dans les jours qui viennent. Il est 22h17 sur Europe 1. On va refaire un dernier tour de tous les résultats avec Virginie Salmen.
Et à l'instant, le résultat à Arles, Patrick de Carolis s'est élu avec 57,22% des voix. La maire sortante Nathalie Appéré, Union de gauche, est réélue à Rennes. Le PC est en passe de perdre son fief de Saint-Denis. Des résultats partiels donnent le socialiste Mathieu Hanotin largement vainqueur de l'élection municipale. C'est un choc majeur pour le Parti communiste français. Saint-Denis était le dernier et le plus gros joyau du communisme municipal en banlieue parisienne. Les écologistes remportent la victoire ce soir à Strasbourg avec la victoire de Jeanne Barseguian. À Lyon, avec l'élection de Grégory Doucet, on apprend à l'instant que Bruno Bernard revendique sa victoire à la métropole de Lyon. À Marseille, avec la tête de liste écologiste Michel Rubirola qui a 10 points d'avance sur sa rivale LR Martine Vassal. À Bordeaux, Pierre Urmic, un avocat de 65 ans, victoire historique dans ce fief de la droite où il n'y avait pas eu de second tour depuis plus de 70 ans. Victoire des Verts également à Poitiers, à Tours et puis à Annecy où François Astorg vient d'annoncer sa victoire. Toulouse semble résister à la vague verte. Le maire LR
Jean-Luc Moudenc sauve son siège. À Lille, la maire sortante Martine Aubry est réélue après un gros suspense. À Paris, Anne Hidalgo annonce sa réélection. 35% des sondages environ pour Rachida Dati et puis 16%, autour de 16% pour Agnès Buzyn. Édouard Philippe, le Premier ministre, est également élu au Havre. À Montpellier, le socialiste Michael Delafosse l'emporte. Et puis Jacques Bompard est réélu à Orange pour l'extrême droite, parti d'extrême droite Ligue du Sud. Louis Alliot pour Perpignan. Et puis les victoires du Rassemblement National à Bruay-la-Buissière dans le Pas-de-Calais, Moissac dans le Tarn-et-Garonne, Mazan et Bédaride dans le Vaucluse. Pas à Carpentras, c'est le divers gauche Serge Andrieux qui est élu.
Et l'un des symboles, merci Virginie Salmen, de cette vague verte hein, dont on parle et dont vous parliez, c'est évidemment la ville de Lyon. Le nouveau maire est un inconnu du grand public. Hein. Il s'appelle Grégory Doucet. C'est lui, le nouveau maire écologiste de Lyon. Et on l'écoute.
Lyon avait rendez-vous avec l'histoire. Nous sommes au rendez-vous. Lyon a choisi l'écologie. Et comme nous avons dit ce que nous allions faire, nous allons maintenant faire ce que nous avons dit. Tous ensemble. Parce que rien ne se fera sans les Lyonnaises et les Lyonnais. Rien ne se fera contre les Lyonnaises et les Lyonnais. Mais ensemble, nous allons préparer notre ville à affronter les conséquences du changement climatique. Nous allons rendre notre ville écologiquement responsable. Et par un effet d'entraînement, nos efforts serviront de repère et de point d'appui à toutes les cités. Lyon va devenir une référence.
Grégory Doucet, 46 ans, le nouveau maire de Lyon, la troisième ville de France, inconnue, vous le disiez, du grand public, Sébastien Krebs, et qui s'impose donc dans ce nouveau paysage politique. Jean-Luc Bougeon, on vous retrouve à Lyon ce soir. Eh bien, c'est coup double même pour Europe Écologie Les Verts ce soir.
Oui, on peut parler de grand chelem puisque les Verts remportent également la métropole, hein, qui est un organisme, une collectivité moins connue et moins symbolique que la mairie, mais qui a beaucoup plus de pouvoir et de moyens financiers. Et Bruno Bernard, le candidat écologiste à la métropole, vient de l'annoncer. Il sera le prochain président de la métropole, hein, cette collectivité créée par Gérard Collomb. Il a obtenu, il est en tête dans 8 ou 9 des 14 circonscriptions de la métropole. Donc il l'a annoncé, il aura une majorité absolue, il pourra gouverner. Avec Grégory Doucet, main dans la main, les écologistes à Lyon et à la métropole auront tous les leviers pour gouverner et transformer la ville, comme ils le disent, la verdir, la rendre plus écologique, comme vient de le dire Grégory Doucet.
Merci beaucoup Jean-Luc Bougeon à Lyon, qui était ce berceau de La République En Marche avec Gérard Collomb. On en parlait tout à l'heure avec Yves Tréhard. Plus largement, Laetitia Krupa, sur les résultats de La République En Marche. Sibeth Ndiaye tout à l'heure parlait de déception. À Paris, Agnès Buzyn serait à 16%, c'est extrêmement faible. LREM n'a pas grand-chose pour se réjouir ce soir.
En fait, j'ai envie de rebondir sur ce score, 16%. On regarde la projection en nombre de sièges, c'est vraiment minime. Et c'est le grand enseignement. Alors bien sûr qu'il y a cette vague verte, mais moi ce que je retiens, c'est cette bérésina, cette débâcle symbolisée par la victoire d'Anne Hidalgo, qui, je vous rappelle, est quand même partie avec de lourds handicaps. Enfin, elle était quand même conspuée par une majorité de Parisiens. Paris, qui était le berceau, le cœur de l'électorat d'Emmanuel Macron en 2017. Et alors, avec cette...
Et encore aux européennes, d'ailleurs.
Cette affaire, cette catastrophe Griveaux, puis suivie de Buzyn, que l'on maintient malgré son interview au Monde, où elle parle de mascarade, où elle accuse finalement aussi l'exécutif de ne pas avoir réagi après qu'elle les ait prévenus au mois de janvier. Enfin, c'est vraiment le scénario catastrophe par excellence. C'est un cas d'école. Alors, on sait que ce pouvoir est jeune. Il faudra qu'il tire vraiment les leçons de cet échec cuisant et de cette débâcle à Paris pour la suite. Voilà, la suite du programme. Franchement, parce que c'est... personne n'aurait pu imaginer ça au départ.
Dans son malheur, elle a de la chance, parce qu'on va plus parler de la victoire des Verts que de la défaite d'Agnès Buzyn.
Oui, c'est vrai qu'il faut le souligner. Laetitia Krupa a dit que ce pouvoir est jeune, on va pousser le curseur et on va dire les choses comme elles sont. Il a été arrogant, en surplomb, et il a pensé qu'il pouvait gagner à la place de tout le monde parce qu'il avait gagné avec un visionnaire, quelqu'un qui avait sidéré un peu toute la vie politique. C'est Emmanuel Macron qui avait en fait entamé une démarche quasi solitaire. Ensuite, il a pensé que c'était pas la peine de d'utiliser la politique. Or, il a compris maintenant, et avec lui toute sa majorité, eh bien au fond, que malgré tout, la politique, c'est aussi des codes, c'est aussi un mode de fonctionnement. D'ailleurs, on l'a vu, il a été quand il a fait son grand débat, finalement, il a fait le tour des maires pour qu'on lui explique un peu comment ça marche, hein, en réalité. C'était aussi ça, parce qu'il est allé récupérer cette légitimité de ce premier scrutin de France que sont les maires pour dire, mais expliquez-moi, au fond, le sous-texte de ce grand débat, c'était expliquez-moi comment ça fonctionne, parce que moi, je suis arrivé par le haut, et maintenant, je suis contesté par le bas. Donc, on voit également la conséquence électorale et politique de cette pensée complexe qui avait été érigée en concept par les macronistes et qui aujourd'hui leur revient en effet boomerang.
Yves Tréhard, est-ce que la réalité locale qu'on voit dans ces résultats est aussi la réalité nationale? Est-ce que dans une élection nationale, la débâcle des LREM aurait été aussi forte?
Je ne sais pas, mais on le verra prochainement. Mais je ne suis pas...
sera sur Europe 1 pour vous le dire.
Voilà, j'espère. Mais je ne crois pas, si vous voulez. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'emballer. Vraiment, le paysage politique est en complète recomposition. Ce n'est pas la volonté d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a gagné la présidentielle parce que c'est les Français qui ont voulu foutre tous les autres dehors. Et donc, ils se sont dit, tiens, bon, on va prendre cette offre nouvelle, on ne sait pas qui c'est. Et je dirais que c'était le premier acte de la décomposition-recomposition. Là, on est en train de vivre les actes successifs. Vous voyez, le Rassemblement national, rien ne dit que Mme Le Pen soit au deuxième tour, ni même au premier, d'ailleurs, de l'élection présidentielle. Les Républicains, on pensait que là, ils se referaient une santé à l'occasion de ces municipales. Ce n'est pas le cas. C'est les écologistes qui débarquent. Et je ne sais pas si cette réalité locale, qui est une réalité, celle du second tour, là, très urbaine quand même, reflète vraiment l'état d'esprit du pays. Je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas.
Voilà.
Je pense que l'écologie est une réalité, mais je ne suis pas sûr que tout le monde partage, si vous voulez, ce que les candidats se revendiquant d'Europe Écologie Les Verts disent. Et puis, un président de la République qui, de toute manière, n'existait que par lui-même. C'est lui qui existe. La République En Marche n'a jamais réussi à s'imposer. Elle n'a pas de figure. Et c'est un peu de sa faute aussi, d'ailleurs, parce qu'il n'a pas laissé s'émanciper. Et on en est là aujourd'hui.
Il y en a un qui existe ce soir. Il s'est exprimé quasiment à 20h. Il est réélu maire du Havre avec 58%, presque 59% des voix.
Edouard Philippe. Il n'est pas membre de la République En Marche.
Écoutez, absolument.
Je voudrais saluer tous ceux qui, en France, se sont engagés, quelles que soient leurs idées, pour essayer de les faire valoir démocratiquement. Et permettez-moi d'insister sur ce démocratiquement. Encore une fois, en France, les choix sont faits par ceux qui se déplacent pour aller voter. Et ceux qui sont élus doivent ensuite avoir la charge de conduire les affaires publiques. Et c'est un élément important dans une démocratie. Et il est bon qu'à intervalles réguliers, on puisse le rappeler. Merci donc à tous ceux et à toutes celles qui nous ont fait confiance. Et maintenant, pour nous, au travail.
Ah, au travail, dit Édouard Philippe. Oui, mais quel travail,
la question,
Michael Darmon.
La question à quel endroit?
C'est intéressant. Oui, tout à l'heure on notait que le président de la République s'était ému et avait regretté la faible participation. C'est intéressant aussi de voir le contraste.
Le symbole.
Remercie ceux qui se sont déplacés. Là où le président regrette ceux qui ne sont pas
venus. Et le président l'a fait, mais quasiment
juste après.
Ouais, 10
c'est une petite pique,
après. Après.
C'est petite pique quand même.
Exactement.
À son
tout d'un coup, l'expression du président vient avec un communiqué, il me semble, de l'Élysée, qui fait passer à toutes les rédactions pour dire que, bien sûr, il est préoccupé par l'abstention. Évidemment que c'est un souci démocratique.
Comme si la victoire de son premier ministre était relativisée.
Exactement. Enfin, et qu'il recevait. Et qu'il s'entretiendrait avec Édouard Philippe demain matin, 30 minutes avant de recevoir la Convention citoyenne pour le climat. Donc, il a fait aussi savoir qu'il recevrait, lui, Emmanuel Macron, à l'Élysée, ce Premier ministre victorieux. Est-ce que c'est la victoire du Premier ministre ou celle d'Édouard Philippe ce soir?
Michael Darmont, une réponse très courte parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
C'est une victoire paradoxale puisque c'est quelqu'un qui, effectivement, apporte un peu peut-être d'oxygène au président de la République parce qu'il y a la victoire de son Premier ministre, mais il n'est pas le membre de la République En Marche.
Qu'est-ce qui va se passer dans les jours prochains? Est-ce qu'on peut imaginer qu'Édouard Philippe remette sa démission dès demain pour engager le processus
c'est
de remaniement?
Dès demain, c'est vraisemblablement prévu dans les prochains jours. D'après ce que je comprends, le processus de remaniement va prendre quelques jours supplémentaires puisque le président de la République aussi attend les contributions des présidents des chambres qu'il avait, donc le Sénat, le Comité économique et social et l'Assemblée nationale. Et quand il aura toutes les contributions et que très certainement les négociations qui sont en cours en ce moment pour recomposer le gouvernement seront abouties, alors on entrera dans ce processus de remaniement.
Sauf qu'il y a un calendrier avec la réunion du conseil municipal du Havre qui doit se tenir à la fin de la semaine.
À la fin de la semaine, on saura sur où ira l'écharpe du maire du Havre.
Et Emmanuel Macron acceptera-t-il ou non la démission de son Premier ministre ?
On verra.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Michaël Darmon, Édouard Le Cerf, directeur général de BVA, Laetitia Krupa pour ses analyses et de votre présence à vous, chers auditeurs. Virginie Salben qui a fait le tour des résultats ce soir. Merci, cher Sébastien Krebs.
Merci, Wendy. Tous les résultats, évidemment, sur Europe1.fr et la matinale de Mathieu Béliard dès demain, dès 6h, avec, bien sûr, Yannick Jadot qui sera l'invité. Il est central, Yannick Jadot, ce soir, invité à 8h15 de Sonia Mabrouk. Et il répondra ensuite à vos questions au 39-21 jusqu'à 8h45. Voilà, vous suivez la matinale, vous ne raterez rien sur Europe 1. Lyon, Tours, Besançon, Poitiers, Strasbourg, Bordeaux probablement, Marseille. Voilà l'ampleur de cette vague verte ce soir. Et elle va être encore largement commentée dans les jours qui viennent.
Et on vous laisse avec Sabine Marin qui vous attend pour la Libre Antenne. Très belle soirée à vous à l'écoute d'Europe 1. Et merci de votre fidélité.
Bonne soirée.